Découvrez l'application Radio France. Écoutez vos radios en direct, retrouvez toutes vos émissions à la demande et les podcasts originaux des chaînes de Radio France.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Le roi s'efforçait de ne pas boiter. Il pinçait les lèvres tant la douleur le lancinait. Des gouttes de sueur humectaient les premières boucles de sa perruque. Il s'appuyait étrangement sur sa canne. Son œil avait perdu son éclat souverain.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, nous sommes ce matin, comme chaque année, en direct depuis les rendez-vous de l'histoire de Blois et devant leur public. Le thème en est cette fois-ci, les vivants et les morts. Nous n'avions en vérité, pour trouver un chemin vers lui, que l'embarras du choix. Le nôtre va nous diriger vers la disparition de Louis XIV, un épisode qui fut de grande portée, historique et symbolique. Il l'est encore, à la fois dans l'historiographie et dans la mémoire collective, telle qu'il a été porté jadis au fil des pages de nos anciens manuels scolaires. Mon invité est Joël Cornette, longtemps professeur à l'université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, qui est souvent venu à ce micro. La mort de Louis XIV, c'est précisément le titre d'un livre qu'il a donné récemment. L'ouvrage est paru dans la collection des journées qui ont fait la France, et c'est une appartenance que son auteur démontre comme tout à fait légitime. Le passage du grand roi de vie à trépas fut en effet ressenti dès l'instant même, en France et à l'étranger, après 72 années de règne, comme un véritable changement d'époque. Les péripéties de cette longue marche vers la mort et les cérémonies funèbres qui la suivirent ont été magnifiquement décrites par Saint-Simon. Elles renseignent sur un système politique et sur une société qui peuvent apparaître évidemment comme très loin de nous, mais l'ensemble des émotions, affichées ou dissimulées, qui entourèrent cet illustre décès, renvoient facilement à la disparition plus récente de souverains, autocrates et autres présidents. Il existait déjà, en 1715, une forme d'opinion publique qui a laissé les traces de réactions très variées. Dans l'histoire de la médecine, comme dans celle des gens d'église et des tabellions en tout genre, qui sont régulièrement à proximité de ces événements-là, on rencontre peut-être plus de différences que de ressemblances avec notre temps. Encore est-ce à vérifier. Et d'abord, naturellement, le grand Saint-Simon.
Il faut du courage pour retracer les fastes et revers d'une époque. Plus encore le crépuscule de celui qui la suscita, l'anima de ses inventions, l'adora de sa grandeur, l'assombrit de ses faiblesses, l'opprima de ce qu'il appelait mon bon plaisir. Sans doute Louis XIV gagna-t-il en ces quelques jours où se défit l'illusion somptueuse qu'il avait prise de sa personne ce surnom de grand qu'un peuple servile lui avait prématurément octroyé, prit-il enfin ces dimensions que les petitesses quotidiennes dissimulaient ? Force du souvenir, rends à mon cœur usé ces mouvements anciens, à mon âme ces appétits. Le vieux cerf est aux abois, il court vers l'étang dont la froidure lui nourra les pattes. La chasse à court me rappelle irrésistiblement la fortune des hommes. et même le plus grand de nos rois, fut un jour cette bête qui ploie sous le nombre, s'affole de misère et crie sa soif. Même le roi Louis le Grand, en dépit de ses gardes, de sa valetaille et de ses plafonds dorés, il eut lui aussi son instant de solitude et put mesurer l'abîme entre le songe solaire où il avait vécu et la réalité de ténèbres où il entrait. Cependant, les avertissements ne lui avaient pas été ménagés. Les malheurs de toutes sortes avaient fondu sur le royaume, les deuils avaient décimé la famille royale. 1709, les princes de Condé et de Conti. 1710, le duc de Bourgogne. 1711, le grand dauphin, puis la jeune duchesse de Bourgogne. Il ne restait au vieux roi qu'un petit-fils, qui sera le roi Louis XV, un neveu, Monseigneur d'Orléans, qui sera régent, Madame de Maintenon et les bâtards qu'il avait légitimés au grand scandale du peuple et de la cour.
Joël Cornette, bonjour.
Eh bien, bonjour.
Je suis très heureux de, très heureux de vous accueillir. Nous avons entendu un extrait des Mémoires de Saint-Simon, qui est élu ici par l'admirable Michel Bouquet dans une fiction radiophonique de Georges Bordenov, qui était intitulée Louis XIV ou Jupiter mourant, déjà Jupiter, diffusé dans l'émission Écho du Grand Siècle de Lily Sioux sur France Culture le 23 mai 1964. Alors, vidons tout de suite une querelle. Est-ce que Louis XIV a dit un jour « l'État, c'est moi »
L'État, c'est moi, oui, c'est une parole un peu apocryphe, il n'a jamais prononcé cette phrase, mais par contre, on sait ce qu'il a dit, parce que, on va y revenir, c'est une mort publique, c'est une mort spectacle, entouré des courtisans, entouré de multiples mémorialistes, et une des dernières phrases qu'il a prononcées est tout à fait fascinante, il a dit « je m'en vais, mais l'État demeurera toujours ». Et je trouve cette phrase extraordinaire, « je m'en vais ». Le corps du roi, ce corps décrit par Saint-Simon dans sa décrépitude absolue de la fin de vie, mais l'État demeurera toujours. Comme s'il y avait deux corps en quelque sorte, le corps charnel qui disparaît et le corps de l'État éternel. Et songez que Versailles visualise ces deux corps, puisque la grande scène spectacle de la mort du roi se déroule au premier étage, face à la ville, dans la chambre cérémonialisée du roi. Et juste à côté de cette chambre se trouve la salle du conseil. C'est-à-dire qu'on peut visualiser à Versailles, si vous voulez, ces deux corps du roi.
C'est la formule du grand historien Kantorowicz.
Absolument. Kantorowicz, oui. Les deux corps du roi, qui sont la quintessence même de l'État. Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours. Vous voyez, je pense que c'est beaucoup plus fort que l'État, c'est moi. Parce que on peut visualiser, justement, cet étrange rapport, finalement, du chef de l'État. Le roi ne meurt jamais, mais tout de même, son corps disparaît.
Vous avez parlé d'un Versailles de papier à propos de l'œuvre de Saint-Simon.
Oui, Saint-Simon, c'est un peu l'équivalent de papier, texte formidable, hein, du Versailles. Mais en même temps, on oublie souvent que Saint-Simon a écrit assez tard. Saint-Simon, c'est déjà un homme des Lumières. Et l'écriture des mémoires, c'est les années 1740. Et le magnifique texte qu'on a entendu en introduction, c'est d'une certaine manière le procès, déjà, de l'absolutisme. C'est-à-dire une critique violente de ce roi jupitérien, effectivement. Et nous sommes dans un autre temps où l'opinion publique joue un rôle essentiel face, finalement, à l'État. Et j'ai trouvé aussi très beau cette image du vieux cerf qui va mourir, puisque la dernière maladie du roi intervient justement après une chasse. Vous savez que tous les rois de France sont passionnés de chasse. Et Louis XIV a tenu, on est au mois d'août, à Marly, à Léon Calèche poursuivre le cerf. Et c'est au retour de cette dernière chasse du roi en calèche qu'il a senti un mal à sa jambe gauche. On va y revenir, le médecin Fagon a diagnostiqué la sciatique, la goutte, c'est pas très grave finalement. Et commence ce grand, malentendu entre la dernière maladie du roi et puis ces médecins un peu moliéresques qui vont tout faire pour essayer de, ne pas réussir finalement à le sauver.
Nous allons rencontrer ces diafoirus à certains égards tout à fait incapables de justifier leur place et leur talent. Mais auparavant, il faut que nous retraciez cette agonie.
C'est
le début d'une agonie, ce 10 août 1715.
Oui,
c'est d'ailleurs curieux que ce soit un 10 août, quand on pense que finalement, ce sera la chute de la royauté.
Oui, 1792. Oui, ça commence le 10 août. Et ce qui est fascinant et terrifiant d'une certaine façon, c'est que tout se fait en public. C'est-à-dire que dès que cette maladie se déclare, le roi rentre à Versailles et il va essayer de jouer en quelque sorte avec son corps. C'est-à-dire faire comme si son corps continuait à vivre et continuer la grande cérémonie du lever, du coucher, des conseils. Il va même recevoir l'ambassadeur de Perse quelques jours après cette maladie, en se tenant dans la grande galerie, mais tout le monde, voilà. Mais le problème, c'est que, évidemment, le corps décrépit, et on a des quantités de sources, justement, d'Angeau, par exemple, qui est un mémorialiste qui, au jour le jour, décrit ce roi, au moment du coucher, il dit, ben, j'ai cru voir un corps mort, tellement il est décharné. Et je crois qu'il faut se rendre compte ici de cette souffrance extraordinaire de cet homme de 77 ans, qui finalement a résisté à toutes les maladies, à tous les médecins, et qui jusqu'au bout a joué justement ce jeu de vouloir tenir l'État, de vouloir tenir les conseils jusqu'au bout.
Il déclare à un moment donné, j'ai vécu parmi les gens de ma cour, je veux mourir parmi eux. Ils ont suivi tout le cours de ma vie, il est juste qu'il me voit finir. Voilà. Cette vie est constamment sous le regard de tous.
Absolument. Versailles est conçu comme le grand théâtre de l'État absolu. Songez d'ailleurs que le château, c'est pratiquement la salle de théâtre, et le royaume s'offre devant ce château. Les trois grandes avenues de 70 mètres de large qui conduisent justement à la chambre du roi sont l'image de la projection. Le roi, chaque matin, en se réveillant, finalement, est face à son royaume, face à ce premier étage où il peut regarder la cour, évidemment, et c'est en même temps le château de son père. Ce qui est très fascinant, c'est que Louis XIV a voulu tenir justement ce lieu emblématique qui était ce petit château de cartes de son papa, qu'il a perdu à 4 ans, et il a tenu à conserver. Quand vous visitez Versailles, le cœur du château, c'est le vieux château de briques de Louis XIII.
On a peine à penser ce que signifient ces 72 années. Voilà. 72 années de record absolu. Même avec les progrès de la médecine, on peut douter qu'aujourd'hui, un souverain ou un chef d'État en France demeure autant au pouvoir. Mais en même temps, c'est un corps qui a énormément souffert devant tous. Cette litanie de douleurs qui a marqué cette vie reste absolument impressionnante.
Absolument. J'ai essayé de faire le point, justement, des maladies de Louis XIV. On oublie souvent, avec ce corps majestueux, mais c'est un peu la propagande aussi qui le présente, hein, en Jupiter, on en a parlé, ou en Mars, ou en Hercule, ou en Louis le Grand, on y reviendra. Il a été très souvent malade. En 1647, il a 9 ans, il est atteint de petites véroles, de variole. Sa maman, Anne d'Autriche, est terrifiée. Évidemment, elle a peur de le perdre. Que va devenir l'État sans le roi? En 1655, une blénorragie. En 1658, il attrape la typhoïde à Dunkerque. Il perd d'ailleurs une grande partie de ses cheveux. Alors, petite anecdote.
Avantage des perruques.
Voilà, l'invention des perruques. C'est-à-dire qu'on lui met une perruque et immédiatement, tous les courtisans se mettent à la perruque. Alors, regardez l'État. Tableau. Jusqu'en 1658, j'ose dire que pratiquement tous les hommes ont leurs cheveux. À partir de 1658, les perruques se développent à l'imitation du roi. Voilà.
C'est une mode que vous relanceriez volontiers?
Oh, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas tout à fait mon cas. Voilà. Et d'ailleurs, songez, le dernier Louis XIV porte une immense perruque grise. D'ailleurs, il a mis du temps à mettre le gris, parce que le gris, pour lui, c'était la mort, c'était le temps qui s'en va. Et donc, il a longtemps résisté. Bon, il y a eu d'autres maladies terribles. En 1685, par exemple, songez que son palais a été troué à la suite d'une mauvaise extraction dentaire. Vous imaginez, arracher une dent en 1685, ça fait assez mal. Et il y avait un trou entre le palais et le nez. Et on raconte que quand Louis XIV buvait, ça sortait par le nez. Enfin, voilà, je suis un peu...
N'insisterons pas ce matin, c'est un peu tôt pour... Mais néanmoins, il y a la fistule aussi.
Ouais. Est terrible. En 1686, comme vous savez sans doute, le docteur Félix, enfin le chirurgien Félix, a opéré Louis XIV à vif de la fistule. Je sais pas si vous imaginez, c'est absolument terrible. Voilà. Il y a eu aussi un anthrax au cou en 1696. Enfin, vous voyez, tout au long de sa vie, de sa très longue vie, 77 ans, c'est une sorte de record, Louis XIV a été presque sans arrêt malade. On le sait parce que on a les rapports des médecins, on a les journaux des médecins qui nous permettent, d'Aquin, Fagon, de connaître de façon assez détaillée les maladies du roi. Et quant aux remèdes, je sais pas si...
Ah oui, donnez-nous une idée des remèdes. Je ne les recommanderais pas à notre auditoire.
C'est des remèdes moliéresques. Voici une petite liste, hein. Alors, accrochez-vous. Les saignées. Ah oui. C'est la médecine, c'est par le plein ou par le vide, hein. C'est-à-dire le vide, c'est les saignées, c'est les clystères, ou le plein, on mange, on boit. Alors, voici quelques remèdes. Louis XIV, entre 1647 et 1715, figurez-vous, a pris entre 1500 et 2000 médecines purgatives, des centaines de clystères. Vous imaginez, tout ça à vif, évidemment, des saignées, des lavements, des bouillons purgatifs, du vin émétique, baume de Saturne. Voici un exemple de médecine, décoction de raclure de cornes de cerf et d'ivoire. Vous voyez, en argugitant l'ivoire, on peut penser que ça va nous guérir. Des opiats, des esprits de vitriol, pommade à base d'essence de fourmi, d'écrevisses et de baume de Pérou, etc.
Ça suffit. Nous avons bien compris que nous ne chercherez pas ça dans vos pharmacies ordinaires.
Voilà.
Mais ça nous conduit tout directement à la question de la pratique médicale de ce temps et ces débats entre les médecins au chevet du roi qui sont après coup considérés maintenant, quand nous les considérons maintenant, assez stupéfiants, n'est-ce pas? Et je vais vous donner un extrait de la même fiction radiophonique de Georges Bordonov que nous utilisions tout à l'heure, qui illustre la querelle entre le médecin Fagon et le chirurgien maréchal. D'un côté, le médecin et l'autre, le chirurgien, chacun défendant sa spécialité avec une manière farouche. C'est une diffusion dans l'émission Écho du Grand Siècle de Lily Sioux, je le disais, sur France Culture, en mai 64.
Mon cher maréchal, vos propos ne peuvent m'offusquer. Nous avons en effet chacun notre art. Le vôtre est de tailler et de recoudre, le mien de prévenir et de guérir. Que sa majesté ait quelques plaies malignes ou quelques cailloux dans la vessie, vous voilà le maître de séjour. Le reste me regarde premièrement, uniquement.
Je n'ai point désir d'empiéter sur vos fonctions.
Alors ?
Convenez cependant que sa majesté ne se bonifie pas, que cette douleur à la jambe est un irritant mystère.
Un mystère ? Vous rêvez, monsieur maréchal. Cette douleur procède du nerf sciatique. C'est une espèce de goutte crampe. Avez-vous oublié que le roi est sujet à la goutte ? Qu'il en eut naguère des attaques insistantes en dépit de mes soins ?
Je sais que vous l'emmaillotez dans un tas d'oreillers en sorte qu'il s'épuise de sueur et qu'il faut le frotter et le changer chaque matin. Vous accablez ses parties digestives d'une profusion de fruits à la glace, de melons, de figues pourries à force d'être mûres, de salades affreusement épicées et que cette immense verdure lui noie l'estomac et l'enfle sans profit.
Encore une fois et la dernière, je vous en préviens, s'il s'agit de tailler, je m'en remets à votre science. Mais pour ce qui est affaire de soins et de régime, je vous dénie tout rôle.
Admettons. Avez-vous tâté le pouls du roi depuis son retour de Marly ?
Cela ennuie le roi.
Nous ennuyons toujours, c'est un parti à prendre.
Vos conseils, monsieur, frisent l'outrecuidance.
Si vous aviez étudié ce pouls comme je l'ai fait, vous seriez moins assuré. La médecine ne souffre donc pas la discussion. Le pouls du roi est irrégulier, fantasque. Non tel qu'il l'avait naguère.
Voilà de la nouveauté.
Il atteste la présence de quelques fièvres de nuit rémanentes et pernicieuses.
Nous sommes en plein fantasme. Le roi ne s'est jamais aussi bien porté.
Jamais aussi bien porté de la part d'un médecin qui utilisait essentiellement des purgations et des saignées, ce qui n'était fait que pour affaiblir le roi davantage.
Absolument, et ce dialogue est très intéressant, puisqu'on devine chez Maréchal, le chirurgien, déjà presque le médecin des Lumières, c'est-à-dire qui est très attentif vraiment aux réactions du corps, aux pouls, etc. Tandis que Fagon, lui, c'est vraiment le médecin moliéresque qui multiplie évidemment les manières de dire au roi « c'est pas très grave, vous allez vous remettre très très vite ». Et Fagon bénéficie, à vrai dire, d'une aura particulière. C'est le médecin aussi de Madame de Maintenon. Et Madame de Maintenon, comme vous le savez, c'est l'épouse de Louis XIV.
Morganatique.
Voilà. Mais Fagon est resté jusqu'au bout très proche du roi. Il y a d'ailleurs des pages positives de Saint-Simon sur Fagon, qui était botaniste par ailleurs, chimiste, qui a appris la médecine à Montpellier, qui est la plus grande médecine, la plus grande faculté de médecine du temps. Mais le résultat, évidemment, c'est que c'était pas du tout une sciatique, c'était de la gangrène. Et les remèdes de Fagon, évidemment, étaient tout à fait inefficaces. On l'a soigné avec des verres d'eau de Bourbon, une purge, de l'eau de sauge.
Ne faites pas rêver nos auditrices et nos auditeurs.
Enfin, vous voyez, des bains d'herbes aromatiques dans du vin de Bourgogne. Oui, Fagon était un défenseur du vin de Bourgogne. Il a imposé d'ailleurs au roi du vin de Bourgogne coupé d'eau. Enfin, voilà le genre de remède contre la gangrène.
Alors, il faut que nous revenions à cette agonie et la manière dont le roi a vécu ses derniers jours avant l'ultime souffrance. Et quelles sont nos sources sur tout cela?
Alors, on a beaucoup de sources, parce qu'encore une fois, c'est une mort publique, et donc j'ai croisé dans mon livre les différentes sources. Bien sûr, on a Saint-Simon qui était présent, on a Madame de Maintenon qui a recueilli les dernières paroles du roi.
La Palatine, c'est la belle-sœur.
La Palatine, c'est la femme du... la mère du futur régent, et qui a laissé des lettres tout à fait terribles aussi.
La belle-sœur donc du roi.
La belle-sœur du roi, absolument. On a Donjot, on a Sourche, voilà. Et surtout, on a peut-être la source la plus émouvante, c'est la source des frères Antoine. Et les frères Antoine, c'était des porte-arquebusiers, mais aussi des valets de chambre, et c'est les valets, finalement, qui sont les plus proches du roi, qui voient son corps, qui l'aident à se vêtir, à se dévêtir. Et cette source des frères Antoine est extrêmement passionnante, parce que on est là au plus près, justement, de cette déchéance physique.
C'est sur leur récit qu'on peut faire fond quand on s'interroge sur les derniers mots, sur les derniers moments du roi.
Et aussi d'autres sources, hein, parce que tout le monde a collationné, en quelque sorte, les dernières paroles. Et c'est vrai que j'ai appelé cette partie « Savoir souffrir ». C'est aussi la cérémonie des adieux. C'est-à-dire que dans cette mort publique, Louis XIV a reçu jusqu'au dernier jour, les uns après les autres, c'est son arrière-petit-fils, les officiers, la famille royale, les grands. Au Condé, par exemple, il a dit « Ne faites pas comme vos ancêtres », parce que la grande peur de Louis XIV, c'est la résurgence de la Fronde. Songez que la mort d'un roi, c'est toujours terrible pour l'histoire de l'État royal. C'est l'époque où la monarchie est mise en question. Et d'ailleurs, les grandes révoltes, les grandes oppositions à l'État royal correspondent toujours aux périodes où le roi est un enfant.
D'ailleurs, on regarde vers l'Angleterre aussi.
Oui, l'Angleterre, bien sûr, et l'Angleterre des révolutions. Et puis l'Angleterre avec l'opinion publique. Il y avait des paris à Londres sur la mort du roi. Quel jour va-t-il mourir?
L'Angleterre a décapité un roi.
Ah oui, décapité, bien sûr. Voilà, le roi, au moment de la Fronde, d'ailleurs, et il y a eu toute une, je dirais, panique de l'État royal, que les événements anglais se communiquent à la France.
Et vous attribuez au goût des Britanniques pour les paris cette étrange pratique a été de jouer sur le moment où le roi finirait par mourir.
Absolument.
Les premiers jours de septembre ou pas?
Oui, c'est ça. Il y avait des paris. Quel jour va-t-il mourir? 1er, 2, 3 septembre. Louis XIV en a ri, d'ailleurs, en se disant, je vais peut-être résister et voilà, je vais pas pouvoir répondre à ces paris. Mais enfin, à Londres, déjà, l'opinion publique est tout à fait importante, évidemment, et on est dans une autre société que la société française, qui, au temps de Louis XIV, est très, très, je dirais, très, très tenue. Il y a une censure, toute critique du roi est interdite. Et on verra, justement, la libération que la mort du roi va provoquer dans la parole. Mais vous avez vu qui est cette cérémonie des adieux. C'est vrai que Louis XIV a reçu donc successivement sa famille, les officiers. Il a vu par exemple les garçons bleus. Les garçons bleus, c'est les valets, pleurer. Et il leur a dit, mais vous pleurez? Pourquoi pleurez-vous? Vous m'avez cru éternel? Je ne suis pas éternel. Il y a vraiment une lucidité sidérante, hein, quand on lit les sources, justement, de Louis XIV jusqu'à la fin. Et je dirais une tenue, une sorte de self-control, si vous me permettez cette expression, de son corps jusqu'au bout. Il y a une sorte de stoïcisme chrétien, si vous voulez, qui se met en place.
Saint-Simon a beaucoup parlé de ce contraste entre toutes les vices, les défauts, les erreurs de son règne et cette dignité finale.
Voilà.
Vous évoquez les frères Antoine. sur les derniers jours, je voulais faire entendre, naturellement. Nous avions lu dans les manuels que j'évoquais l'idée qu'il aurait dit à son petit-fils, qu'il a reçu de fait incontestablement, « J'ai trop aimé la guerre ». Je ne sais pas s'il a vraiment eu cette formule.
Alors, on n'est pas sûr de la phrase, hein, parce que elle est évidemment importante. Louis XIV a établi une sorte de bilan, et de bilan un peu critique de son règne. Et au cœur de ce bilan, il y a cette fameuse phrase « J'ai trop aimé la guerre ». Mais on va peut-être écouter justement cet extrait des...
Vous le souhaitez ? Comment savez-vous que je vais vous le donner ?
Parce que vous l'avez évoqué.
Alors voilà un extrait du journal historique des frères Antoine évoquant l'entrevue ultime avec celui qui va être Louis XV, qui est un tout petit garçon.
Journal historique des frères Antoine. Un moment après que les chirurgiens furent retirés, le roi commanda qu'on lui amenât Monsieur le Dauphin. Il arriva aussitôt avec Madame de Ventadour, sa gouvernante. Cette dame le plaça dans un fauteuil au chevet du lit de Sa Majesté, qui, l'ayant considéré avec application et une espèce de complaisance, lui dit, les larmes aux yeux, ces belles paroles qu'on a depuis écrites en gros caractères dans un tableau placé au chevet du jeune roi pour les imprimer dans sa mémoire et en graver les maximes dans son cœur. « Mon enfant, vous allez être un grand roi. N'oubliez jamais les grandes obligations que vous avez envers Dieu. Ne m'imitez pas, surtout dans les guerres avec vos voisins. Soulagez votre peuple plus que vous pourrez. J'ai eu le malheur, par les nécessités de l'État, de ne le pouvoir faire. »
Cela sonne juste, plus que les autres récits qu'on a...
Absolument. Recueillis. Et je pense que Louis XIV a pris conscience, vous savez, la fin du règne de... Il y a plusieurs règnes de Louis XIV. Hein. Louis XIV, vous l'avez signalé, 77 ans de vie, 72 ans de règne. Et j'oserais dire qu'il y a plusieurs Louis XIV. Le jeune Louis XIV, c'est le Louis XIV de la Fronde, justement, qui a dû vivre cette insurrection multiple contre l'État royal. C'est le premier règne, c'est un Louis XIV silencieux, d'une certaine manière. Le deuxième Louis XIV, chacun le connaît, c'est le Louis XIV de Colbert, c'est le Louis XIV des grandes réformes, c'est le Louis XIV, finalement, qui va conduire jusqu'à Versailles. Et le dernier Louis XIV, c'est pour ça que je me permets d'insister sur lui, c'est ce Louis XIV, je dirais, désenchanté, qui subit de multiples crises. Le pivot du règne, si vous voulez, c'est les années 80. Il perd Colbert, il perd sa femme, Marie-Thérèse, il se remarie avec un homme de Maintenon, c'est la période de Louvois, c'est la ravocation de l'édit de Nantes, et c'est aussi des guerres terribles, guerre de la Ligue d'Augsbourg, guerre de succession d'Espagne, et ces guerres, qui sont pratiquement des guerres mondiales, vont peser lourdement sur la société, sur tout le monde, hein, non seulement par les ravages des troupes aux frontières, mais aussi et surtout par, je dirais, le tour de vis fiscal qui va continuer, c'est-à-dire une pression énorme des impôts. La taille, les impôts indirects, et des impôts nouveaux, la capitation qui repose sur tout le monde, le dixième en 1710, et je pense que Louis XIV a pris conscience justement de cette oppression sur la société, d'autant que s'ajoutent les désordres climatiques, hein. On parle aujourd'hui des désordres climatiques, mais à l'époque de Louis XIV, songez le grand hiver de 1709, songez à la grande crise de 1793 qui a tué sans doute 2 millions de Français, voilà. Et c'est tout cela qu'il y a dans les dernières paroles de Louis XIV. J'ai trop aimé la guerre, et il aurait dit à son arrière-petit-fils, ne faites pas ce que j'ai fait, mais il ajoute aussi ce que j'ai eu le malheur de ne pouvoir faire par les nécessités de l'État. Et vous voyez, on a commencé notre entretien justement sur ces dernières paroles, je m'en vais, mais l'État demeurera toujours. Je pense que chez Louis XIV, il y a cette notion d'État. C'est-à-dire, il est au service de l'État. Et cette nécessité de servir l'État l'a conduit justement à ces guerres. À ces guerres, alors il ne faut pas voir Louis XIV comme un dictateur, un tyran. Ce sont des guerres défensives, ce sont des guerres pour restituer au royaume, je dirais, sa plénitude, le précaré dont parle Vauban. Mais ça a pesé très très lourd, évidemment, parce que toute l'Europe, finalement, s'est liguée contre Louis XIV. Et la dernière guerre de Louis XIV, c'est la guerre de succession d'Espagne, quand l'Espagne, finalement, est devenue presque française, puisque c'est le petit-fils de Louis XIV qui devient le roi d'Espagne, Philippe V, et donc toute l'Europe s'est coalisée contre cette double puissance que représentaient la France et l'Espagne. Et c'est tout cela que Louis XIV finalement paye à la fin de sa vie, et il a une sorte de remords finalement, et c'est ce qu'il dit à son petit-fils. Ça annonce finalement les Lumières.
Alors, nous allons y venir, mais auparavant, Joël Cornet, je voudrais que nous entendions un autre extrait de Saint-Simon qui braque l'attention sur l'ultime moment de la vie de cet homme, qui évoque en particulier sa profonde religiosité, sa conviction qu'il y aura un après. Et ce comportement s'effectue dans une dignité qui frappe Saint-Simon, aussi critique qu'il ait été envers le roi, qu'il admirait tout en le détestant à certains égards. Écoutez cet extrait sur l'extrême onction du roi que va lui apporter le cardinal de Rohan.
Monsieur le cardinal lui administra les saints viatiques et l'extrême onction qu'il reçut avec grande démonstration de componction et de piété. Répétant plusieurs fois ces paroles entrecoupées de sanglots et de larmes, « Mon Dieu, ayez pitié de moi, j'espère en votre miséricorde. » Les pleurs et les gémissements retentissaient de tous côtés. La cérémonie et les prières finies, Monsieur le cardinal fit une seconde exhortation au roi sur la grâce que Dieu venait de lui faire, lui donna la bénédiction du Saint-Sacrement qu'il reporta à la chapelle dans les mêmes ordres qu'il était venu. À cette nouvelle accourut une si grande affluence de peuple que non seulement les appartements et la cour du château, mais aussi les rues et places de Versailles en étaient remplies. C'était une consternation générale, tant ils étaient alarmés du péril où était le roi. Sur les 5 heures du matin, il perdit absolument toute apparence de vie excepté la respiration. Son visage devint pâle et tourné à la mort, ses yeux se fermèrent et il ne donna plus aucune marque de sentiment. 2 heures après, la nature faisant un dernier effort, le roi tomba dans l'agonie qui dura encore 2 autres heures et finit à 8h30 quart du matin, par quelques petits soupirs et 2 hoquets sans aucune agitation ni convulsion. Ainsi mourut Louis XIV, le 1er jour de septembre 1715, âgé de 77 ans moins 4 jours, après avoir régné 72 ans, 3 mois et 18 jours. Ainsi passa la gloire du monde, sic transit gloria mundi.
C'était une lecture de Daniel Königsberg, comme celle d'ailleurs, c'est lui aussi qui avait lu l'extrait des frères Antoine, une lecture de Daniel Königsberg dans La Fabrique de l'Histoire, notre cher Emmanuel Laurentin sur France Culture, le 29 septembre de l'an de grâce 2015.
Eh oui, c'est un anniversaire.
Alors qu'est-ce que vous en dites ?
Eh bien écoutez, c'est aussi l'angoisse terminale. Songez que Louis XIV n'a pas de juge. Qui peut juger un roi ? Le seul juge, c'est le Très-Haut, c'est Dieu. Et donc je pense que les derniers jours sont justement consacrés à une sorte de, je dirais, tractation entre le Très-Haut et Louis le Grand. Que va dire mon juge de mon règne ? Et c'est cela aussi qui est en jeu dans ces derniers moments de ce que j'ai appelé ce stoïcisme chrétien de Louis XIV, qui doit rendre des comptes au tribunal suprême, le juge, voilà. C'est ça qui est en jeu. Et effectivement, ce 1er septembre, à 8h15, c'est très fascinant d'ailleurs, parce que je parlais tout à l'heure des garçons bleus, qui sont les valets du roi. Le premier geste à Versailles, c'est d'arrêter toutes les pendules à l'heure exacte de la mort du roi. Vous imaginez, comme si le palais se figeait dans un hors-temps, comme si le temps s'arrêtait, comme si la mort faisait que ce palais se fige finalement avec ce corps qu'on va embaumer, on va y revenir, il y a une sorte de cuisine des funérailles, si vous me permettez cette expression.
La mort saisit le vif.
Voilà, la mort saisit le vif en même temps parce que au premier étage où il y a la foule, vous voyez Versailles, hein, la salle de palais, il y a la cour de marbre, il y a la foule qui est là, qui attend la mort évidemment, on sait qu'elle est inéluctable. Et bien quand la mort intervient, le grand chambellan apparaît sur le balcon du premier étage.
Avec les 2 plumes.
Ah là, il a une plume noire à son chapeau. Il enlève la plume noire, ce qui veut dire que le roi est mort. Il ressort, il rentre, et il met une plume blanche sur son chapeau en disant « Le roi est mort, vive Louis XV ». Et nous sommes ici dans l'instantanéité de la succession. Le mort saisit le vif, il n'y a pas d'interruption, si vous voulez. Et ça, c'est une pratique de la monarchie, c'est-à-dire une sorte de succession instantanée de l'autorité politique incarnée.
Qui se traduit aussi par le comportement de la cour. Chateaubriand raconte les comportements des courtisans à l'égard du régent qui va être...
Absolument.
Et qui... L'antichambre est envahie par tant de gens qu'on ne pouvait pas laisser tomber une aiguille à terre,
dit-on.
Et puis le bruit court ensuite que peut-être le roi va guérir. Et alors tout à coup, plus personne. Voilà. Saint-Simon se trouve en tête à tête avec le régent.
Et à chaque mort de roi, c'est ainsi. Autant Louis XIII aussi, en 1643, qu'on a pensé que Louis XIII n'allait peut-être pas mourir, eh bien la chambre de la régente, en l'occurrence Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, s'est vidée. Et donc, vous imaginez le ballet des courtisans qui vont de pièce en pièce, parce que ce qui compte, évidemment, c'est celui qui va détenir l'État, qui donne les faveurs, qui donne les charges, donc qui donne le pouvoir. Voilà, il y a ce jeu, finalement, des courtisans qui est un peu terrible, et que Saint-Simon raconte, effectivement. Au dernier jour, on a fait venir une sorte de charlatan de Marseille, le docteur... Enfin, il n'est pas docteur, il s'appelle Monsieur Brun, qui, paraît-il, avait une sorte de remède miracle pour sauver le roi, un élixir... on ne sait pas de quelle composition. Alors, on a donné quelques gouttes à Louis XIV, il s'est senti un peu mieux, et c'est justement l'épisode que vous racontez, donc on a pensé que peut-être le roi allait guérir, et donc la chambre du régent s'est vidée, et on est retourné autour du roi en se disant peut-être qu'il va ressusciter. Ça n'a pas été le cas, évidemment.
Le grand roi est mort, et l'adjectif va d'ailleurs être discuté, mais en attendant, on organise ses funérailles. Qui sont également parlantes sur l'état d'une société, le fonctionnement d'un pouvoir. Écoutez cet extrait des Mémoires de Saint-Simon, un bref extrait qui décrit le cortège funèbre de Louis XIV, toujours lu par Daniel Königsberg dans la même émission.
La marche commença sur les 8 heures du soir, conduite par les sieurs de la chapelle, capitaine des gardes. Les compagnies des gendarmes, chevaux légers, gardes du corps, gardes de la porte et de la prévôté de l'hôtel et de Cent Suisse, commandés par leurs capitaines et colonels. Le chariot du corps, suivi de celui du deuil, où étaient les princes du sang, et de celui des aumôniers, où était le confesseur du roi et monsieur le curé de Versailles, de ceux des officiers de la couronne, de plusieurs prélats et seigneurs, formaient une marche lugubre mais pompeuse, à laquelle se joignirent les officiers des 7 offices et autres de la maison du roi.
Ce cortège, qu'a-t-il à nous dire, Joël Cornette ?
C'est un cortège très impressionnant. Alors, il faut... On n'a pas beaucoup de temps, mais il y a le traitement du corps du roi. C'est-à-dire que dès sa mort, le 1er septembre, donc il est mort en public... Il y a ce que j'appelle la cuisine des funérailles. C'est un terme un peu terrible, mais ça veut dire que le corps a été éviscéré, embaumé... C'est d'ailleurs le chirurgien maréchal qui l'a fait.
Le cœur aussi.
Le cœur. On a extrait le cœur, on a extrait les entrailles, comme s'il y avait trois corps finalement. Les entrailles ont été enterrées à Notre-Dame. Le corps a été vidé, farci d'étoupe et d'aromates, placé dans un cercueil de plomb puis de bois. Le cœur a été enterré. Dans l'église Saint-Louis de la maison professe des Jésuites de Paris, dans la rue Saint-Antoine. Donc vous voyez, comme s'il y avait trois corps. Et le corps du roi, lui, donc dans un double cercueil, exposé à Versailles quelques jours, ensuite il est amené à Saint-Denis. Et c'est l'extrait qu'on a entendu, ça s'est passé entre le 9 et le 10 septembre 1715. Et là aussi c'est tout un cérémonial. On quitte Versailles au soir. Et le soir, c'est le symbole évidemment de la mort, de l'enfouissement, de la disparition du corps. Et tout va être fait pour que le corps, le cortège, arrive à Saint-Denis à l'aube, promesse de la résurrection. Vous voyez, c'est-à-dire, là aussi, il y a un symbole très fort. Et le cortège, c'est un cortège immense de 2500 personnes à peu près.
Il y a aussi une symbolique sociale, le peuple est
absolument.
Largement, la plupart, 800 gentilshommes à cheval.
Oui, mais alors ce qui est étonnant, c'est que
il
y a une coupure entre, je dirais, le cérémonial curial, c'est-à-dire que la procession, c'est la cour, c'est les officiers, c'est les corps constitués, c'est l'État finalement. Le peuple, il est spectateur. Et à la limite, c'est aussi la coupure entre l'État royal et la société. Louis XIV est allé à Versailles, finalement. Il a fui Paris. Et vous savez que l'un des premiers gestes des révolutionnaires, ça va être de ramener le roi à Paris.
Et d'ailleurs, le jeune Louis XV va un moment à Paris. Absolument. Avant de revenir à Versailles, si
tout
je ne me trompe pas.
Oui. Dès 1715, Versailles est vidé, si je puis dire, et le régent et le petit Louis XV vivent à Paris. Mais il y a un retour à Versailles en 1722. Et je crois que cette coupure entre la société réelle, finalement, et l'État royal est tout à fait importante, intéressante aussi. Et on le visualise au moment de cette longue file de carrosses, de flambeaux, de courtisans qui vont toute la nuit de Versailles à Saint-Denis, avec le peuple qui regarde, qui est spectateur, simplement.
Spectateur, et cela nous conduit peut-être à une réflexion sur l'opinion publique, sur l'évolution, le sentiment public, voilà. Pour prendre la formulation de Saint-Simon, l'esprit public, comme on disait au XIXe siècle. Tout à coup, on voit se dessiner les prodromes de quelque chose comme une opinion qui peut se révéler, parce qu'auparavant, elle était évidemment tenue de très très près par la police, par les forces de surveillance. Et je voudrais pour ouvrir cet ultime, hélas, moment de notre conversation, Joël Cornette, vous faire entendre une chanson 1715, qui s'appelle « La mort de Louis XIV ». L'auteur est anonyme. Elle est interprétée ici par les Quatuors de la Cité en 1959. Enfin, Louis le Grand est mort. Enfin, Louis le Grand est mort. Écoutez.
Enfin, Louis le Grand est mort. La barque a terminé son sort. Pour regagner, voulons-la-la. Elle vient de trancher sa vie. Toute l'Europe en est ravie.
Enfin,
Louis le Grand est mort.
Nous lui prêtâmes notre argent en beau louis en écu blanc, croyant qu'il serait honnête homme. Mais nous savons à présent comme cet être fou de sa fille à des gens que l'on ne peut coffrer.
Les uns le nomment Louis le Grand et d'autres Louis le Tyran, Louis le banqueroutier, Louis l'injuste.
Et ses raisons l'air assez juste.
Il n'eut autre raison jamais qu'en disant « Voulons, il nous vous plaît ». Enfin, Louis le Grand.
Ce prince n'avait pas pourtant le cœur dur comme un diamant, car il aimait la demoiselle quand il avait jeune cervelle. Puis étant devenu barbon, il prit la veuve de Scarron. Le confesseur qui le savait, pour pénitence lui donnait d'exterminer les jansénistes dont en poche il avait la liste. Et chaque péché pardonné par une lettre de cachet. Il composa dedans son lit le dernier tome des édits. Il régla toute la finance de ce pauvre peuple de France. Tous ses billets il retira, et c'est ainsi qu'il s'acquitta.
On fit venir des médecins,
mais soit qu'ils n'y connussent rien,
ou que par esprit de prudence
voulussent en délivrer la France,
ils l'ont mis dans le monument
à notre grand contentement. Enfin, Louis le Grand est mort, la Pâque a terminé son sort, pour regagner volons-la,
elle vient de trancher sa vie, toute l'Europe en est ravie.
Tout le monde que nous avons évoqué autour du roi passe dans cette chanson, avec les médecins qui auraient à dessein provoqué la mort du roi, soit qu'ils n'y connussent rien, soit que par esprit de prudence, ils voulussent en délivrer la France. Et puis l'idée que la Parque a tranché sa vie et que toute l'Europe en est ravie.
Oui, absolument. On change d'époque. Hein. C'est vrai. Bon, j'ai écrit un livre, Les journées qui ont fait la France. Cette mort de Louis XIV marque vraiment un moment. Vous évoquiez 72 ans de règne. Imaginez, 72 ans, la plupart des Français n'ont pas vécu avec un autre roi que Louis XIV. Donc c'est une véritable libération. Et la parole se libère, ça qui est fascinant. C'est-à-dire que dès la mort de Louis XIV, il y a un torrent véritablement de pamphlets, de chansons, on en a entendu une, qui d'une certaine manière, désacralise complètement le roi. Et c'est ça qui est tout à fait important. Je parlais d'état spectacle, d'état sacré, d'une certaine manière. C'est tout cela qui se délite dans cette année 1715.
La lettre de cachet qui est évoquée dans la chanson peut évoquer un des succès de librairie à cet égard.
Absolument. En 1715, paraît à Amsterdam l'Inquisition française ou l'histoire de la Bastille.
Déjà, la Bastille, c'est intéressant avec le recul.
Et la Bastille, alors c'était étonnant d'ailleurs, en 1715, on n'appelle pas à la destruction de la Bastille, mais la Bastille, c'est l'envers de Versailles, finalement. Il y a d'un côté l'état glorieux, et de l'autre, une lettre de cachet du roi suffit pour enfermer n'importe qui, vous, moi, sur un simple mot du roi. Et c'est tout cela, finalement, qui est critiqué dans ses chansons, dans ses pamphlets. Et dans ses poèmes, dans ses oraisons funèbres aussi, puisqu'il y a évidemment des oraisons funèbres à la gloire de Louis le Grand, mais des oraisons funèbres critiques.
Il y a un texte absolument fascinant à relire avec le recul, c'est l'oraison funèbre due au père Massillon.
Absolument.
Et dans la Sainte-Chapelle. Vous nous donniez quelques extraits d'ailleurs. Parce absolument. Que il dit seul Dieu est grand.
Voilà.
Après ce que ça voulait dire.
Chateaubriand a dit d'ailleurs que, d'une certaine façon, toute l'oraison est contenue dans ces quelques mots. Dieu seul est grand, mes frères. Je crois qu'on peut réfléchir un peu sur qu'est-ce que ça veut dire ces mots. Dieu seul est grand, mes frères. D'abord, ça veut dire Dieu est là, bien sûr, et il s'impose. Mais n'oubliez pas que Louis XIV a été comparé à Louis le Grand, c'est-à-dire Alexandre le Grand. Dans les années 1660, hein, pensez par exemple à la pièce de Racine, Alexandre le Grand, et aux images de Charles le Brun, représentant Louis XIV en Alexandre le Grand. Le fait de dire que Dieu seul est grand, mes frères, ça rabaisse automatiquement, évidemment, le corps du roi à ce qu'il est, un néant, et évidemment, il est le contraire d'être grand. Et le sermon continue par une critique extrêmement violente, notamment des guerres.
Mais j'ai envie d'en lire quelques lignes. Absolument. Avec votre permission, Joël Cornette. Triste souvenir de nos victoires, que nous rappelez-vous ? Monuments superbes, élevés au milieu de nos places publiques pour en immortaliser la mémoire, que rappelez-vous ? Que rappelez-vous à nos neveux ? Que rappellerez-vous à nos neveux ? Lorsqu'ils vous demanderont ce que signifient vos masses pompeuses et énormes, vous leur rappellerez, écoutez bien, un siècle entier d'horreur et de carnage. Père Massillon qui...
Absolument.
De carnage. L'élite de la noblesse précipitée dans le tombeau. Tant de maisons anciennes éteintes, tant de mères point consolées qui pleurent encore sur leurs enfants. Nos campagnes désertes et au lieu des trésors qu'elles renferment en leur sein, n'offrant plus que des ronces au petit nombre des laboureurs forcés de les négliger. Nos villes désolées, nos peuples épuisés, les arts à la fin sans émulation, le commerce languissant. N'en jetez plus.
Absolument, c'est vraiment un changement d'époque. Alors, on a prévenu le régent d'Argenson, qui était le policier, si je puis dire, du règne, est allé dire au régent, il faut absolument faire quelque chose contre tous ces personnes qui critiquent et osent critiquer Louis XIV, le roi. Et le régent a dit, en gros, non, il faut laisser faire. Et là, on sent justement ce changement d'époque. C'est-à-dire que le régent Philippe d'Orléans, évidemment, c'est un tout autre univers, il a laissé la parole se libérer parce qu'il a compris justement qu'après ses 72 ans de règne terrible, où pour un mot on pouvait être arrêté, voire même exécuté, hein, quelqu'un qui critique le roi peut être condamné à mort, voilà, on va laisser la parole. Et donc, dans mon livre, j'ai consacré justement un chapitre à cette parole libérée. On a en particulier beaucoup de textes qui commencent par « CJ ». Vous voyez, des espèces de, comment dire, d'oraisons funèbres, mais...
Voltaire.
Oui, Voltaire.
Le fameux texte de Voltaire.
Voltaire a d'ailleurs été, lui, en prison, d'ailleurs, pour un texte terrible.
Donc c'était quand même les limites du libéralisme.
Voilà, oui, c'était un libéralisme relatif, évidemment. Et Saint-Simon aurait, Voltaire aurait été l'auteur, on n'en est pas sûr, d'un j'ai vu les guerres, j'ai vu la misère, j'ai vu, par exemple, par de criants impôts et d'injustes édits, un démon nous faire la loi. Vous imaginez un démon nous faire la loi, il s'agit de Louis XIV. Alors tous ces textes qui commencent par CJ sont très très intéressants parce que c'est une déconstruction finalement de la propagande de Louis XIV. Vous savez qu'au temps de Colbert notamment, il s'est mis en place, je dirais, un ministère de la gloire, c'est-à-dire le fait que la publicité royale a été étatisé. C'est-à-dire toutes les formes de création, le théâtre, la musique,
la peinture,
la sculpture, ont été mises au service du roi, en le représentant en Alexandre, en Hercule, etc.
Mais on peut penser à la fin du Tartuffe, ajouter
absolument.
Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude.
Tout à fait. Et justement, ces textes Sigy déconstruisent ces images du roi. Je vous donne quelques exemples. En voici deux. Sigy, notre invincible roi, qui meurt pour un acte de foi, il est mort comme il a vécu, sans nous laisser un quart d'écu. Pas mal, hein ? C'est-à-dire, c'est le roi, voilà, qui nous pique notre argent. Un exemple, écoutez ça. Il imita trois dieux, par l'adultère Mars, Mercure par le vol, Jupiter par la foudre. Et là, vous voyez, c'est l'envers de Versailles. Vous allez à Versailles, vous regardez le plafond de la Galerie des Glaces et des peintures extraordinaires, avec un Louis XIV de foudroyant tous ses ennemis, subjuguant toute l'Europe. Bah, c'est ça qui est finalement inversé à partir de 1715. Et on s'acharne sur le corps du roi, justement, ce corps décrépit du roi. Je vais vous donner un seul exemple. Écoutez ça. Le grand Louis est trépassé, et les médecins ont trouvé du sang qu'il n'avait qu'une livre, car il nous avait bien sucé. Voilà. Vous voyez, cette espèce de roi, comment dire, vampire, c'est un peu terrible. Hein. Et c'est pour ça que j'ai voulu justement insister sur cet envers, envers du décor, envers de Versailles. C'est cette tentative du roi, justement, de créer ce spectacle absolu, saturant, finalement, d'images, de textes, jusqu'aux opéras, puisque vous savez que les opéras de Licinio sont tous à la gloire du roi. Il y a toujours un prologue qui raconte le roi de guerre, qui raconte les victoires.
L'Europe, alors l'Europe aussi se réjouit sous cap parfois, mais
oui,
de façon souvent ostensible.
Absolument. Il y a eu, d'ailleurs, les critiques contre Louis XIV ont commencé justement en Europe. C'est-à-dire que, au moment en particulier de la guerre de Hollande, à partir de 1672.
D'Amsterdam en particulier,
où la liberté était... voilà. Parce que il y a des pays où la liberté, si vous voulez, d'expression est beaucoup plus grande. On a évoqué l'Angleterre avec les paris sur la mort du roi et évidemment les Provinces-Unies. Les Provinces-Unies sont un lieu d'une assez grande, même grande liberté de création artistique, littéraire et de critique. Hein. Et donc la plupart des pamphlets contre Louis XIV sont justement apparaissent à Amsterdam. Mais certains aussi en France, hein, parce qu'il y a des fausses signatures. C'est pas parce que vous voyez Amsterdam 1709 que ça a été publié à Amsterdam, parce que beaucoup ont été publiés en France, mais justement de façon anonyme et avec la marque d'Amsterdam.
La brèche est ouverte désormais.
La brèche est ouverte, absolument, et elle continuera jusqu'à la Révolution. Alors, si je n'ai pas dire que la Révolution est contenue en 1715, mais justement cette ouverture de l'opinion, si vous voulez, il y a une sorte de pivot, c'est-à-dire que au temps de Louis XIV, c'est vraiment l'État royal qui est le moteur, et à partir de 1715, je pense qu'il y a la concurrence de l'opinion, et l'opinion publique va devenir de plus en plus grande. On a évoqué au début de notre entretien Saint-Simon, et c'est le texte qui a été choisi avec tout à fait de façon tout à fait importante. Mais justement, 1740, c'est la grande époque où les Lumières, justement, s'opposent au roi, s'opposent à l'État royal. Et ça va continuer, bien sûr, jusqu'à la brèche ouverte en 1788 par la convocation des États généraux, c'est-à-dire, à vrai dire, l'opinion publique qui va prendre le relais de l'État royal.
En s'appuyant d'ailleurs sur la pauvreté imposée à la nation par le comportement d'un roi qui a trop aimé la guerre.
Absolument. Qui a trop aimé la guerre. Je pense que ça, c'est une sorte de permanence de l'État royal. On peut dire que de 1635 jusqu'en 1713, la guerre a été permanente. 1635, c'est au temps de Richelieu, hein, la déclaration de guerre contre l'Espagne, contre les Habsbourg, et cette guerre va pratiquement continuer. Je pense que c'est une guerre continue. Les courts moments, c'est des moments de trêve, si vous voulez, d'une guerre à l'autre. Mais il y a pratiquement un siècle de guerre. Et c'est cela, finalement, qui a pesé d'un poids très très lourd. Mais en même temps, c'est ça qui a fabriqué l'État, hein, avec les intendants, avec des progrès, disons, techniques par la guerre. Donc la guerre, on peut évidemment la critiquer, mais la voir aussi comme un accélérateur de l'histoire, et ça a été le cas pour l'État royal.
On aurait aussi le goût, mais nous n'en avons pas le loisir, de comparer aux périodes de la République où très peu de présidents et de princes sont morts finalement en fonction. Certains ont été assassinés, il y en a eu deux sous la Troisième République, oui. Et il y a eu le cas de Georges Pompidou.
Oui, l'un des seuls, c'est Pompidou. C'est vrai que je me souviens bien, je passais l'agrégation, on a appris en avril 1974 la mort de Pompidou. Et vous le savez sans doute, cette mort a été longtemps, non pas cachée, mais en tout cas la gravité de sa maladie. Et donc là, on est un peu à l'inverse de Louis XIV. Louis XIV, tout est public, hein. Des prières sont dites dans tout le royaume pour le corps du roi, pour régénérer le corps du roi. Et d'ailleurs, tout au long, pour les maladies de Louis XIV, j'évoquais en 1658 cette perte de cheveux, des prières ont été dites dans tout le royaume pour sauver le roi. Donc il y a un aspect public, justement, de l'État royal avec ce corps incarné.
Eh bien, hélas, nous aboutissons à la fin de cette rencontre devant ce chaleureux public de Blois. Je rappelle le titre de votre beau livre, Joël Cornette, La mort de Louis XIV, apogée et crépuscule de la royauté. Vous avez magnifiquement illustré tout cela, paru chez Gallimard dans la collection des journées qui ont fait la France et réédité en livre de poche, je crois, tout récemment.
Absolument, ça vient de reparaître en livre.
Donc chacun peut se le procurer aisément chez son libraire préféré.
Merci.
Et puis vous avez dirigé, il y a plus de temps, enfin non, en 2017, avec Anne-Marie Helvétius, un beau nom pour une historienne, La mort des rois de Sigismond, 523 à Louis XIV, essai de comparatisme évidemment, aux presses universitaires de Vincennes, 2017. J'ai fait fond dans une émission antérieure, il y a quelque temps avec vous, sur l'ouvrage consacré au roi absolu, c'est le titre, Une obsession française, 1515-1715, où vous montrez la genèse progressive de cette institution, de ce roi absolu dont vous venez de décrire, de ressusciter la figure. Talendier 2022. Et puis, je citerai aussi le livre d'Alexandre Maral, Les derniers jours de Louis XIV, chez Perrin, 2014. Et je voudrais aussi évoquer un livre de François Heilbronn, qui s'appelle Deux étés 44, qui en fait consacre la moitié de ce livre, qui est un peu un roman, mais qui est très pertinent, sur une maladie ultérieure de Louis XV à Metz, qui est sauvée d'extrême justesse en 1744, parce qu'on réussit à introduire un bon médecin qui est juif, mais on dissimule le fait qu'il s'était introduit. Parce que les diaphoirus sont inefficaces.
Absolument, et la médecine des Lumières a progressé par rapport à celle du XVIIe siècle.
Eh bien, il me faut vous dire maintenant que c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet que vous venez d'écouter, préparée par Jeanne Guérou et réalisée par Vincent Abouchard, avec à la prise de son une très fine équipe, Franck Malabry, Éric Oudra, Martin Guénard, Daniel Louison, Julien Girard, et Julien Calvas. Non, je crois que j'ai à peu près tout dit. Oui, à la prise de son, je les remercie chaleureusement. Et puis, à la discothèque étaient Célian Guillemard et Véronique Jolivet pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Samedi prochain, nous nous retrouverons pour traiter du thème suivant, dont vous jugerez aisément l'actualité, arménien, les douleurs de l'exil. Et nous recevrons pour cela Anouch Kunt. Lundi matin, vous retrouverez à 9h le cours de l'histoire de Xavier Mauduit, qui va consacrer sa semaine entière aux histoires oubliées du Moyen-Âge. Après l'avoir écouté, elles ne seront plus oubliées.